radiovostok.ch.
1, 2, 3.
Le chargement total sur la partie arrière, c'est 100 kilos.
100 kilos, donc, quoi. Donc tu peux déjà faire des belles courses, quoi. Ouais,
c'est à la fois dans les sacoches et sur le porte-bagages.
Voilà.
J'empile 3 bacs, puis je mets 6 boîtes de lait de chaque côté. Je pense que dans une voiture, je devrais rabattre la banquette pour tout ça.
Ouais, c'est ça. Tu mets plus sur ton vélo longtail que dans un coffre d'une voiture, quoi. C'est inouï.
Salut tout le monde, vous voulez causer vélo ? Eh ben ça tombe bien, nous aussi. Et cette semaine, c'est avec les copains des Soquettes en titane. Générique !
Les Soquettes. Les Soquettes. Les Soquettes en titane.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Soquettes en titane, émission dédiée au vélo sous toutes ses formes. Nous aurons aussi les vélos Bike 43 avec Étienne qui nous explique comment il a fait pour développer ces vélos qui permettent de transporter les enfants. Avec moi, j'ai évidemment mes chères chroniqueuses. Bonjour Mélodie.
Oui, moi ça va super, merci.
De quoi vas-tu nous parler en deux mots aujourd'hui ?
Des pistes cyclables, moi, comme toujours. C'est un sujet qui revient, mais je me pose quelques questions et je voulais en parler avec vous.
Ah, bon, on va y réfléchir ensemble. Bonjour Katia, comment tu vas ?
Salut Clément, très très bien.
Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ?
Moi, je vais proposer un petit agenda vélo, en fait, pour voir toutes les activités vélo. Il y a trop de trucs, en fait, et voilà, je vais parler un petit peu de ça.
Et bah oui, même si on est en période de pandémie, il y a quand même des petits trucs à dire au niveau de l'agenda. Dans les studios déjà présents, assis autour de la table, nous avons Tanguy. Bonjour Tanguy. Tu représentes une bande de passionnés qui ont de volontaires passionnés, donc qui dit volontaire dit bénévole, je pense.
Oui, c'est bien ça.
Qui avait développé tout un réseau de points nœuds. De quoi il s'agit ?
Les réseaux points nœuds ont commencé il y a 25 ans au Limbourg. C'est un ancien mineur qui a créé ce système de ce qu'on appelle un réseau points nœuds. En fait, c'est assez innovant parce qu'au lieu de faire un itinéraire qui va de A à B, il a créé des boucles de 15 km environ. Et donc, grâce à ces boucles, on peut créer soi-même ces routes de n'importe où. On peut créer des routes de 6 km, 15, 20, 35 par rapport où on se trouve. Et donc, quand on parle de point nœud, c'est... Les liens entre ces deux nœuds qui forment un numéro. Et donc, concrètement, quand on veut faire du vélo avec ces réseaux points nœuds, on suit une séquence de numéros. Donc, on fait le 9, le 10, 16, le 17, et donc on va d'un point nœud à l'autre, et il y a normalement un balisage cyclable qui permet de suivre ces numéros. Donc ça, au niveau du principe.
En ce moment, tout le monde a un GPS ou alors un smartphone connecté avec Google Maps ou voir une autre appli. Et en fait, il n'est pas nécessaire d'avoir toujours un truc qui nous relie à un satellite.
L'été dernier, on remarquait que, avec la pandémie, il y avait nettement plus de cyclistes. Et résultat des courses, il y avait beaucoup de personnes sur la seule boucle qui existe. Et donc, il y avait trop de monde. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a fermé des segments. Ouais. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible, il faut créer une alternative. J'ai contacté une personne dans le monde géomatique et lui, il avait une expérience technique. Moi, j'avais l'expérience intelligence collective pour gérer les groupes de citoyens. Et en fait, on s'est dit, on y va. On va faire ce réseau. Au mois de juillet, au mois d'août, on a pu activer une quarantaine de citoyens qui, au mois de juillet, ont dessiné eux-mêmes tous les itinéraires qui les intéressaient. On a mis tout ensemble.
Vous aviez lancé un appel sur les
réseaux. Voilà, on a fait un appel.
Et les gens sont allés tester, les Bruxellois, eux-mêmes les
boucles. Oui, et donc au mois de juillet, ils l'ont dessiné. On a fait un zoom toutes les semaines pour vérifier. Et au mois d'août, il y a un deuxième groupe de citoyens qui a été vérifié les boucles sur place. Et donc, ils ont au moins été vérifiés deux ou trois fois.
Ah oui, donc c'est vraiment une initiative citoyenne, en fait, tout ça.
Oui, c'est une initiative citoyenne, zéro budget.
Et hyper efficace, parce que ça s'est fait en quelques mois et c'était bon. Et maintenant, les points nœuds sont là. Et je pense qu'ils sont déjà intégrés sur la carte que tu m'as montrée tout à l'heure, de la carte physique papier.
Oui. Donc les réseaux sont normalement gérés par le service touristique d'une province. Eux ont commencé à remettre à niveau leur balisage, qui datait quand même d'il y a 10 ans. L'année dernière, ils étaient en train de la finaliser et en fait, on est arrivé à affiner le réseau bruxellois pour qu'il soit complètement aligné avec ce nouveau réseau. Et comme tu l'indiques bien, en fait, ils viennent de sortir leur nouvelle carte. Et sur la nouvelle carte, il y a le réseau pointneux bruxellois, en tout cas les grands axes qui sont repris. Il y a un QR code qui va vers le site. Donc, site de Routio. Ouais. Voilà, on l'a lancé, il est utilisé. Je vois au niveau des statistiques que les week-ends et pendant les vacances, il y a vraiment des pics. En fait, on n'a plus besoin de balisage, en principe, parce qu'on peut planifier, télécharger le fameux GPS de vélo, le GPX, et on le met sur un programme et on le roule. Mais bon, c'est naturellement plus sympa d'avoir un balisage. C'est un enjeu en ville, il y a pas mal de points. Le but a toujours été de fournir en open data les données à d'autres opérateurs comme Fitsnet ou d'autres, parce qu'on a un intérêt à le distribuer. En fait, on oublie souvent qu'il y a un retour économique quand un cycliste vient et utilise ces réseaux. C'est un utilisateur récréatif. Et donc, j'ai ici quelques chiffres. Ça rapporte entre 50 à 60 euros par jour, un cycliste.
Ouais, c'est énorme.
Il y a un autre chiffre ici que j'ai repris, mais ça, c'est dans la Loire. Donc, en France, ils ont des bons chiffres, etc. Mais donc là, ils ont calculé les retombées économiques par kilomètre par an. Un kilomètre de balisage, ça revient à 35 000 euros par an.
Ça revient, c'est-à-dire que ça rapporte, c'est ça?
Ça rapporte en horeca, en tourisme, en 35 000.
À fond, ça mange les cyclistes, c'est physique,
ça mange.
Et puis ça boit de la bière, et puis ça boit...
Et donc, y a
pas que de la bière.
Que de la bière, ça boit des jus de fruits.
Jus de fruits. Et donc il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je veux dire, si on prend... Donc il y a 252 kilomètres en région bruxelloise. Si on prend les chiffres qui ne sont pas les chiffres les plus élevés, en fait, il y aurait un retour économique de ces 252 kilomètres de 8 millions d'euros par an.
C'est un potentiel énorme. Voilà.
Et ça coûte 300 000 euros pour le faire.
Ouais.
Donc, ça coûte 2 semaines et demie
d'investissement. C'est un très bon investissement.
Donc, c'est un bon investissement, mieux que Bitcoin. Hein.
Exactement.
Parce qu'en plus, c'est dur de faire mieux que Bitcoin.
Oui, il y a un chiffre qui dit qu'il y a 3 fois plus de visiteurs quand le réseau est balisé.
Ah oui.
Donc, ça, c'est...
Ouais. Donc, ah oui.
Mais tout ça, c'est des choses que comme mouvement citoyen, on n'a pas en main.
Ouais. Et ça dépend de la région. Donc le balisage physique, il faut que la région dise oui, on le fait.
Voilà. Merci, merci beaucoup Tanguy. On va s'écouter. La chronique de Mélo Vélo.
J'espère que tout le monde va bien et que vous avez repris des couleurs après un climat assez particulier cette semaine. Petite anecdote, d'ailleurs, moi j'avais retiré mes garde-boue la semaine passée. J'avoue, j'avais beaucoup d'espoir. Mais voilà, j'ai retiré mes garde-boue en pensant que le printemps était enfin arrivé. Eh bien, j'ai été bonne pour les remettre cette semaine. Bref, aujourd'hui, moi je vais vous parler des pistes cyclables, ou plutôt des bandes cyclables. Quand on fait quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui se plaint quelque part, qui fait beaucoup, 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 beaucoup de bruit. Et évidemment, les pistes cyclables ne sont pas épargnées. On a toujours les motos fâchées qui ont quelque chose à dire. Mais je vous rassure, ce n'est pas d'eux dont je vais parler. Moi, je vais plutôt vous parler de qu'est-ce qu'est vraiment une piste cyclable. Parce que bon, souvent, on décide de supprimer une ou plusieurs bandes cyclables et de rajouter un peu de peinture, parfois elle est rouge, parfois elle est jaune, et après, ça suffit à faire une piste cyclable.
Quelle cata.
Pourquoi tu trouves que c'est une cata?
Mais parce qu'on voit bien le résultat. Moi, au début, quand j'ai vu le résultat, je dis ok, ouais, ça a l'air pas mal. Et puis, déjà le lendemain, on voyait quoi? On voyait des camions arrêtés dessus, sur les pistes, tout ça, donc c'est absolument pas respecté. Voilà. Quoi. À moins qu'il y ait vraiment une surveillance policière qui assure, comme certaines zones de police le font, et là, ça rigole pas.
Donc, on est d'accord que cette piste cyclable n'est pas vraiment une piste cyclable. Ce qu'on est content, évidemment, c'est que la sécurité des cyclistes est en tout cas prise en compte, c'est-à-dire qu'effectivement le fait de développer des nouvelles pistes cyclables, c'est qu'on sent qu'en tout cas notre avis en tant que cycliste est pris en compte. Mais finalement, quand on voit les pistes cyclables qui sont créées, on se demande vraiment qu'est-ce qui est pris en compte et si on peut y rouler en sécurité. Qu'est-ce que c'est vraiment une piste cyclable ? Alors il faut distinguer, il y a les bandes cyclables et les pistes cyclables. Les bandes cyclables se retrouvent sur la chaussée. Elles sont signalées par un marquage au sol, une ligne continue ou discontinue et un pictogramme de vélo qui permet parfois de voir dans quel sens il faut circuler. Parfois, on a même des pistes cyclables à contresens du sens du trafic. Ensuite, on a les pistes cyclables. Et les pistes cyclables, qu'est-ce que c'est ? Ces pistes cyclables, elles sont isolées par rapport aux autres usagers de la route. Et ce sont des zones protégées des véhicules motorisés. Donc en fait, c'est pas très compliqué. Une piste cyclable, ce n'est pas juste de la peinture sur la chaussée. Mais pour que les cyclistes s'y sentent en sécurité, il y a plusieurs éléments qui sont assez importants. La première, c'est qu'elle soit sécurisée. Ça veut dire qu'il n'y a aucune interaction avec la voie des véhicules motorisés. Séparer la piste du cyclable évite, par exemple, comme tu le disais, les arrêts minutes de tout autre véhicule sur la piste cyclable. Parce que finalement, c'est ce qui est, en tout cas, mon avis, c'est ce qui est parfois le plus dangereux. Ouais. C'est qu'on se retrouve parfois à des endroits où voilà, il s'est arrêté pour 2 minutes pour décharger ou que sais-je. Et que ça nous oblige, à nous cyclistes, à traverser une ligne continue et à rentrer dans la circulation.
Nous, à la limite, ce n'est pas trop problématique, mais une famille avec des enfants, voilà. Ça va être un vrai problème.
Ça peut être un problème. Et elles peuvent être, par exemple, séparées par des plots en bois, des barrières, des pots de fleurs installés à intervalles réguliers. Donc, par exemple, en fait, séparer une piste cyclable du trafic, finalement, ça crée de la sécurité pour les cyclistes. Alors, voilà. Moi, c'est ce que j'ai pensé. Est-ce que toi, tu as d'autres idées qui pourraient être ajoutées pour sécuriser une piste ?
Ben, la séparer, c'est ce qu'il y a de mieux, ne serait-ce que pas. Si on n'arrive pas vraiment, c'est au moins mettre des potelets, comme ils ont fait Chassé d'Oivre, par exemple.
Chassé d'Oivre, là, c'était plus que nécessaire, parce que c'était un parking.
Ben, les arrêts minutes, c'était la politique.
Il n'y
a que des arrêts minutes, quoi. Donc, des bêtes potelets, ça peut déjà vachement aider, quand même. Pour ça, il faut une volonté, soit de la commune, soit de la région, en l'occurrence. Il faut vraiment redoubler d'efforts sur les forces de police, quoi, pour qu'elles passent assurées. Toutes les zones de police ne mettent pas ces efforts-là.
Oui, et puis finalement, est-ce que créer des pistes comme ça et demander un renfort des polices, c'est un peu faire double emploi. Il faudrait peut-être créer des pistes séparées du trafic qui empêcheraient de devoir faire appel à la police.
Oui, après, il y a l'éducation, toute l'éducation et les mentalités qui doivent changer aussi. Et ça, malheureusement, c'est un travail à plus long terme, c'est un travail de longue haleine. Et je pense que ça a commencé aussi parce qu'il y a de plus en plus de cyclistes. Donc forcément, les mentalités sont en train de changer et la conduite des voitures est en train de changer. Il faudra encore un peu de temps, je pense, pour que...
Enfin, voilà. Ça, c'était pas un coup de gueule, mais en tout cas, un petit coup de pression pour dire peindre et mettre de la peinture sur la chaussée ne met pas du tout en sécurité les cyclistes qui y roulent.
Radio-Vostok.ch. Bon, nous avons en studio avec nous Étienne. Bonjour, Étienne.
Bonjour.
Merci d'être là. N'hésite pas à te rapprocher le plus possible du micro pour qu'on t'entende bien. Et vous aussi, la nomade sédentaire et Mélo, vélo.
Toi, c'est bien.
Toi, c'est bien, mais, mais merci. Merci. Alors, Étienne, tu viens ici nous parler de la marque de vélo Bike 43. Est-ce qu'on le dirait peut-être en anglais ou en Bike français, ça marche aussi ?
Oui, c'est Bike for Three.
Oui, parce qu'il y a un jeu de mots que je n'avais pas capté.
Oui, c'est Bike for Three People, donc le cycliste, l'adulte et 2 enfants. Et puis finalement, les gens ont un petit peu détourné entre guillemets le produit en mettant 3 enfants. Donc certains le baptisent le Bike for Four, voilà.
Mais ça reste Bike for Three. Et alors, donc les vélos long tail, c'est bien un vélo long tail, c'est ça le nom officiel
Oui, c'est ça, c'est un vélo long tail, donc c'est un vélo avec l'arrière allongé, donc pour disposer d'un porte-bagages plus long, et dans notre cas, plus bas aussi, donc avec une roue arrière plus petite, pour avoir le chargement plus bas et donc mettre 2 ou 3 enfants relativement bas sur le vélo, donc pour plus de stabilité et de facilité de conduite, notamment pour les gens de petite taille.
Mm-hmm. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que contrairement à pas mal de vélos cargo qui ont la roue avant plus petite, ici c'est la roue arrière qui est plus petite, c'est ça ?
Oui, donc la roue avant est à une taille normale, presque normale en fait, c'est une taille 24 pouces, donc c'est un peu plus petit qu'une roue de VTT. Donc, ça permet de monter les bordures quand même encore relativement facilement, puisque plus la roue est petite, plus c'est difficile de monter des bordures.
Et par contre, la roue arrière, elle suit en fait le mouvement. Et donc là, on a pu prendre une roue de petit diamètre, une roue de 20 pouces, pour avoir le porte-bagages plus bas, ce qui est très important. Pour que le poids soit bas, les enfants soient bas, on a vite 50, 60, 70 kilos de chargement à l'arrière. Et plus il est bas, plus le vélo est stable, facile à conduire.
Et c'est qui a imaginé ce concept ? C'est toi, en fait ?
Oui, c'est moi. Ouais.
Qui est, parce que je pense que tu es ingénieur de formation, c'est ça ?
Tout à fait.
Donc tu étais bien placé pour imaginer ce cadre ?
Oui.
De vélo.
Il y a combien de temps que ça existe ?
Les premiers croquis datent d'à peu près 2011.
Ah oui.
Et puis on est en production depuis 2016. Et entre les deux, il y a eu. Ça s'est fait un petit peu au fil de l'eau. Ça s'est fait presque par hasard en fait. Enfin, c'est une assez longue histoire, mais. Ouais. L'idée n'était pas forcément de démarrer une application commerciale, c'était plutôt pour notre usage propre dans notre famille.
Ah ouais.
Et puis, de fil en aiguille, proto après proto, finalement, on est arrivé à une activité commerciale.
Ah, c'est marrant ça. Donc, tu t'es dit que tu avais un besoin pour ta famille, vous alliez rouler, et tu t'es dit, je vais créer un vélo adapté à nous, et puis finalement, ça s'est fait.
En fait, quand on a eu le premier enfant, donc ma compagne n'a pas le permis de conduire, donc on a eu un premier enfant, et donc là, j'ai récupéré le vélo que mon grand-père a fabriqué pour ma maman, qui était donc un vélo super léger qui avait été fait à la carte, et puis alors on a mis un siège enfant, comme font la plupart des parents, et alors qu'est-ce qui s'est passé ? On a mis ma fille dedans, et le vélo est parti en wheelie, et alors ma femme a dit, non, je veux pas de ton truc, c'est trop dangereux, j'étais un peu déçu. Et donc, on a fait un petit peu le tour des magasins pour voir ce qui existait.
Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de longtail, peut-être ?
Non, ça n'existait pas.
Non.
Ah. Et donc, on a fini par acheter un vélo hollandais, un Sparta, qui était fait pour du transport d'enfants, mais qui était très, très lourd. C'était un peu on compensait le déséquilibre par du poids supplémentaire. Et donc, le vélo, il fonctionnait, hein, mais c'était des freins à tambour qui ne freinent pas bien. Il pesait 26 kilos.
Ouf.
C'était assez frustrant de rouler sur ce vélo.
Et quoi, il y avait un siège enfant à l'arrière sur le Sparta.
Oui, il y avait un siège enfant à l'arrière. Ah, ouais. Il était prévu pour mettre un siège devant au niveau du guidon.
Mm-hmm.
Puis on a roulé quelques années avec ça. Et puis quand le numéro 2 a été lancé, je me suis dit là, on a vraiment un problème. Parce que...
Le numéro 2, c'est pas le vélo, c'est l'enfant. Hein,
l'enfant.
Pour ceux qui suivaient pas trop.
Et donc ma femme n'ayant toujours pas passé le permis de conduire.
Mais à quoi bon ?
Comment est-ce qu'on allait se déplacer ? Et donc là, j'ai commencé à faire des croquis et il fallait une solution dans les 12 mois. Donc là, on a commencé à visiter des magasins de vélos cargo. À Leuven, notamment, on a essayé pas mal de vélos. Et là, il y avait un longtail, le Yuba Mondo, qui était un vélo de rando avec des grandes roues.
C'est américain très long. Ou c'est français, Yuba, je sais pas.
C'est américain.
Américain, ok.
Fondé par un Français et un Allemand, si j'ai bien compris.
Ah, c'est
puis
ça,
il y a eu un split
d'où ma
un
confusion.
Moment. Ouais. Et puis on a essayé tous ces vélos-là. Et moi j'aimais bien le longtail. Et ma femme trouvait que c'était trop gros, trop encombrant. Il n'y a aucun vélo en fait qui nous convenait à tous les deux. Même en fait, ma femme n'aimait pas les backfit. C'était trop gros, trop lourd, trop encombrant, difficile à conduire. Ouais. Donc voilà, on est reparti de là en se disant il faut faire quelque chose, on va le faire.
Là, on est en quelle année donc ?
Ouais, 2011-2012. Il y a un ami français que j'ai rencontré chez Courage Compétition. Un ami français, on a pris un vélo, on a coupé l'arrière, on a pris un VTT, on a coupé l'arrière, on a refait un arrière complet avec l'ergonomie un petit peu de Scaleback Virtual actuel pour tester le concept. Et on a fait ce vélo, on a roulé un été avec. C'est super. Mais comme il n'y avait pas de moteur, en fait, dès qu'on a deux. C'était un peu le concept de faire un vélo léger. Mais en fait, dès qu'on met des enfants, un vélo léger, ça ne marche plus. On a vite 30, 40 kilos, et alors le moindre faux plat, on est à 9 km heure en train de transpirer, et ce n'est pas fun du tout. Et on est très vite limité dans les distances. Donc je me suis dit, il faut mettre un moteur. Et on a refait un cadre complet, cette fois-ci. On a mis un moteur, et c'était nettement mieux, c'était vraiment nettement mieux. On a roulé plus avec, et même les premières fois, en fait, la première fois, j'ai pris le Brompton de ma femme pour la suivre avec les deux enfants. Elle sur le bike faut suivre avec les deux enfants. Et en fait, dans les montées, j'arrive pas à suivre.
Allez.
La fois d'après, je me suis dit, cette fois-ci, je vais prendre mon VTT, il faut quand même y aller. Et j'arrive pas à suivre dans les montées. J'étais en danseuse à 25 dans les montées et c'était dur. Donc là, c'était vraiment un chouette produit. Mais c'était pas top au niveau rigidité. Donc on a refait encore une itération. On a fait un troisième proto. Et là, c'était bon. La première fois que je suis monté sur le vélo, j'ai vraiment eu un sentiment incroyable. Je me rappellerai toujours. Je me suis monté sur le vélo avec le moteur et tout. Et quand je l'ai pris en main, je me suis dit, ça, c'est vraiment super. Il y a vraiment un bon sentiment, c'est costaud. On sent ce que le vélo va faire, c'est stable, ça, c'est vraiment, vraiment bien. Et donc là, on l'a lancé en production. On a fait quelques salons. Et alors, les premiers salons, avec deux sièges enfants derrière, c'était nouveau. Les gens rigolaient, en fait. Ils disaient, c'est pour transporter des jumeaux.
Ouais.
On était un peu l'ovni dans le salon.
Ouais.
Qui à l'époque était encore fort vélo de course, et un vélo loisir. Et puis voilà, on a un peu avec surprise, on a évangélisé parce qu'en fait c'était un concept qui n'était pas connu, donc on a vraiment dû, on est passé par tous les stades de l'innovation, enfin les early adopteurs et ainsi de suite. Donc ça a pris du temps, on a lancé une nouvelle génération de vélos avec un moteur central. Depuis 2 ans et demi environ, et puis donc voilà, petit à petit, voilà, les gens sont habitués à les voir en rue. Il y a des gens en fait qui nous ont connus très tôt, mais qui étaient un petit peu hésitants, et en fait qui ont finalement choisi le bac fossile 2 ans plus tard en croisant d'autres gens sur la route qui avaient un bac fossile. Leur ont demandé, tiens, finalement ça parle comment? Ouais, c'est super, je suis contente. Ça les a rassurés, et puis la boule de neige est partie. Quand même très doucement, ça a mis beaucoup de temps à percuter quand même.
On le trouve chez la plupart des vélocistes, ou il faut commander directement chez toi, ou comment ça marche si on en veut un?
On est distribué, nous on ne vend pas en direct, hein. On passe par des magasins,
ouais.
Et donc voilà, les gens peuvent aller tester chez l'un ou l'autre et passer commande s'ils le souhaitent.
La pandémie a eu un gros impact au niveau de la production, des ventes?
En fait, lors du premier confinement, en fait, le carnet de commandes s'est volatilisé en 2 semaines.
Ah ouais.
Tout le monde, tous les magasins ont annulé leurs commandes. Donc là, on était quand même un petit peu perplexes. Et puis, dès que ça s'est réouvert, le carnet de commandes s'est re-rempli en 2 semaines. On a repris le même nombre de commandes. Donc, finalement, il y a eu un trou d'air, mais on n'a pas arrêté la production, sauf, je pense, 2 semaines. On souhaitait nettoyer les locaux, désinfecter, mais sinon, il n'y a pas vraiment eu de blocage. Et alors, depuis, il y a une croissance, mais je pense qu'il n'est pas aussi grande que sur les vélos unipersonnels.
Ce qui est normal, oui. Ça reste un...
Et nous, notre activité est fort liée à l'activité des écoles. Donc, si les écoles sont fermées, les gens n'ont pas besoin de vélos pour transporter les enfants. Donc, les ventes diminuent. Et par contre, je pense qu'on profite de manière générale de l'amélioration des infrastructures cyclables partout en Europe, là où on est revendu. Et donc, les gens sont plus en sécurité de se déplacer à vélo. Et donc, là, c'est plutôt une augmentation organique qui est due à l'infrastructure. Ce n'est pas un boom brutal comme il y a eu dans le vélo de loisir, mais bon, ça, on croit gentiment quand même.
Il y a un auditeur qui demande si tu recrutes chez Backcountry.
Envoyez-nous votre CV, on étudiera avec attention.
Ok, t'entends Bubus, hein, on voit ton CV.
C'est cool, hein, on fait même Pôle emploi.
Passez vos messages, vos coups de cœur, vous voulez une chanson, demandez à Clément, il vous la met.
Non, les chansons, c'est pour demain, dans mon autre émission.
Des petits mots d'amour à faire passer à madame, allez-y.
Moi, j'étais pas spécialiste en vélo long tail parce que mes enfants sont trop grands pour que je les y mette avec moi dessus, mais au niveau du moteur, il y a... Il y en a qui disent que le moteur de Bike 43 est un peu moins puissant que peut-être celui d'un Terne. Est-ce que c'est juste? Et puis de toute façon, est-ce qu'on a besoin d'un moteur beaucoup plus puissant pour conduire ses enfants à travers les routes?
On a un moteur, l'autre haut de gamme est à 85 Nm.
Ah voilà.
C'est un Shimano EP8, c'est l'équivalent du Bosch Performance CX, donc c'est la même chose.
Ouais, c'est ça, c'est peut-être des plus anciens modèles qui étaient un peu moins puissants.
Oui, oui,
ok, donc les gens qui parlaient là, que j'ai vu récemment sur les réseaux, en fait étaient sûrement basés sur des modèles beaucoup plus anciens de chez Bike 43. Bike43.com, ouais. Hein, comme ça les gens peuvent facilement retrouver, les francophones.
J'ai vu un commentaire positif à propos des moteurs. Moi, j'y connais rien avec ces histoires de moteurs. Mais quelqu'un qui disait que l'avantage du Back4Tree, c'était que, si j'ai bien compris, le moteur n'était pas... Comment dire? Le dessin du moteur ne collait pas, si tu veux, au cadre. Ce qui fait qu'il ne serait pas dépendant de l'évolution potentielle de la technologie à l'avenir, quoi.
C'est vrai. On a un cadre, quand on est passé au moteur central, c'est un peu une pression du marché pour passer au moteur central, on a prévu le cadre pour qu'il puisse être compatible avec toujours un moteur dans la roue avant pour l'entrée de gamme. Et donc finalement, là où se trouve le pédalier sur un vélo classique ou le moteur sur un vélo avec moteur central, on a un berceau dans lequel on vient fixer soit un genre d'adaptateur pour mettre sur le moteur ou un adaptateur par rapport à un boîtier de pédalier standard. Donc on peut effectivement, sur un Bike4Tree, passer d'un moteur roue au moteur pédalier ou remplacer un moteur par un autre. C'est assez évolutif. Oui.
Ouais, voilà,
on est flexible au niveau production aussi. Ça nous permet d'approvisionner des cadres. Et puis c'est au moment du montage. Donc le lundi, voilà, on décide, on fait cela cette semaine. Donc il y en a avec moteur roue, moteur pédalier. On a 2 versions moteur pédalier. Donc ça donne beaucoup de flexibilité au niveau production.
Ouais,
et plus de perspectives aussi pour le client à terme. Il n'est pas, ouais. Son cadre est utilisable.
Voilà. C'est bien pour la durabilité du vélo. Quoi. Parce qu'il y a un problème que le vélo il est pour la poubelle. Donc
J'imagine qu'il y a aussi, j'imagine que vous avez dû réfléchir au sein de l'équipe à cet aspect de durabilité justement du vélo.
Enfin, on essaie dans la mesure du possible de concevoir des choses qui sont avec le minimum de maintenance, donc robustes. On n'a pas de dérailleur parce que c'est trop fragile sur un vélo qui roule en ville, sur des petits trous, on peut le plier sur une bordure, des choses comme ça, ça on ne fait pas. Les accessoires, on essaie d'être rétrofitable. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait une évolution de cadre, on essaie que les nouveaux accessoires puissent fonctionner sur les anciens vélos, ce qui n'est pas toujours facile, ça prend du temps parfois, il y a un aspect prix. On n'est pas vraiment dans la philosophie de faire des produits qui ont une obsolescence rapide et d'oublier les clients, les premiers clients. C'est pas notre façon de voir.
Il faut compter quel budget pour le vélo. Il y a plusieurs modèles en fait ou bien...
Alors, il y a plusieurs modèles. Ce qui change entre l'un et l'autre, c'est le moteur et la transmission. Donc on part d'un moteur roue avec Nexus 7, donc un moyeu à vitesse. Et puis alors après on passe au moteur central Shimano 6100 qui fait 68 Nm avec un Nexus 5. Vous avez des shifters électroniques également. Donc pour les gens qui ne sont pas à l'aise, qui se remettent au vélo, le vélo change tout seul de vitesse.
Je pensais que ça existait que sur les vélos de course ultra technologique, les shifters électroniques.
Alors, c'est passé sur les vélos de ville, donc grâce à Shimano. Et donc, le moteur pilote le maillot à vitesse tout seul. Donc, en fonction de la vitesse du vélo et de la vitesse de pédalage, il choisit tout seul la vitesse. Il se remet en première quand vous arrêtez. Donc, au feu rouge, il est toujours dans la bonne vitesse. Et vous pouvez aussi le piloter manuellement, donc vous changez vous-même les vitesses, c'est vous qui choisissez.
Et ça, c'est sur les différents modèles, c'est comme ça ou non ?
C'est une option,
Donc
c'est disponible sur les deux moteurs centraux, donc en 60 et en 85 Nm. Et on a aussi des transmissions, à variation continue, donc il n'y a pas de cran entre les vitesses. C'est le système Enviolo, donc c'est un peu une poignée qu'on tourne et on la met exactement où on veut, donc on a exactement les multiplications qu'on souhaite. Et celle-là aussi existe en mode automatique. Donc oui, c'est en fait les utilisateurs sont en partie des gens qui viennent de la voiture, donc ils remplacent une voiture par un vélo et ils ont un petit peu l'attente ou l'habitude d'avoir des choses qui sont faciles à utiliser.
Le vélo long tail pour des gens effectivement qui n'ont pas l'habitude et qui sont un peu réticents au vélo cargo. Moi, j'avoue que j'ai conduit un vélo cargo pour la première fois de ma vie il y a quelques jours là. J'avais un peu d'appréhension. Alors qu'un long tail, j'ai testé pour la première fois aussi un long tail il y a deux semaines je crois. Et tout de suite, je me sentais à l'aise, quoi, parce que ça, enfin, c'est comme un vélo normal finalement. Il y a pas de différence au niveau de l'équilibre, etc. Et c'est vrai que pour des gens qui viennent, enfin, qui se mettent au vélo quotidien et qui viennent de la voiture en particulier, c'est la solution idéale, quoi, parce que tu peux charger. On pense toujours long tail, mettre des enfants et tout ça, mais aussi tu peux mettre tu peux mettre combien comme chargement de course à l'arrière dans ces énormes sacoches ?
Le chargement total sur la partie arrière, c'est 100 kg.
100 kg, donc, quoi. Donc tu peux déjà faire des belles courses, quoi.
C'est à la fois dans les sacoches et sur le porte-bagages.
Voilà.
Donc on a un système aussi de genre d'arceau qu'on met autour des emplacements, autour de la banquette arrière. Ouais. Dans celle-là, on peut empiler des bacs. Et voilà, personnellement, je fais des courses, j'empile 3 bacs, puis je mets 6 boîtes de lait de chaque côté. Je pense que dans une voiture, je devrais rabattre la banquette pour tout ça.
Ouais, c'est ça. Tu mets plus sur ton vélo long tail que dans un coffre d'une voiture, quoi. C'est inouï.
Et c'est grâce. Moi, j'aime bien parce que c'est quand même grâce à ta femme, Étienne, que ces vélos-là ont vu le jour.
C'est dingue.
Franchement,
c'est vraiment un hasard de la vie. Ouais.
C'est une belle histoire.
Ouais. En tout cas, c'est super chouette que tu sois venu nous en parler pour les vélos Bike 43. Donc, c'est tout simple, hein, bike43.com. Nous voilà avec hors catégorie, avec ici en studio, Cédric et Flo. Salut.
Hello.
Bonjour à tous.
Merci d'être là, d'avoir accepté l'invitation.
Hors catégorie, il y a pas mal de choses. Il y a plusieurs personnes derrière donc, qui ont chacune un peu leur domaine à la base. Et donc ça s'est mis ensemble pour créer ce truc sans catégorie.
Pour les Français, c'est une association sans but lucratif, quoi. C'est un statut, c'est une personne morale, quoi.
Je crois que c'est ça.
Oui, mais. Tu allais dire, Flo ?
J'allais dire association sans but lucratif, dont l'objectif, enfin, le but social est donc de faire la promotion du vélo sous toutes ses formes. Et donc. Ça se traduit dans nos activités actuelles via, comme on l'a dit, l'atelier, donc la réparation, la restauration du vieux vélo, la vente de vélos d'occasion, les montages de vélos à la carte, la livraison On livre un peu de tout, des fleurs, on a livré des médicaments.
Beaucoup de professionnels à professionnels.
Voilà.
Comment les gens peuvent trouver s'ils veulent livrer? Il y a un
avec
site.
Avec HRush, tu peux trouver les coordonnées de HRush via Internet ou sinon chez nous hors catégorie également.
Donc ça peut être des particuliers ou des professionnels.
Voilà. En général, c'est plutôt des professionnels, mais certains particuliers parfois font appel à nous.
Okay.
Donc HRush existe toujours sur la toile, enfin sur Internet, pour nous contacter, bien évidemment, mais sinon via le site d'hors catégorie, il y a le pendant livraison qui est accessible. Donc si vous avez envie de faire livrer des fleurs à votre bien-aimé, vous pouvez faire appel à nous, ce sera avec plaisir. On fait la promotion du vélo via plusieurs biais, la livraison, la réparation, notre petit bar associatif qui est accessible pour nos membres.
C'est Flo, merci vraiment d'avoir accepté l'invitation. Portez-vous bien
et roulez bien,
faites du vélo.
RadioVostok.ch